chapitre 7, quelques versets qui vont nous aider, donner un peu de contexte à l'autre passage qu'on va lire tout à l'heure et qui servira de base pour la prédication. Donc ce passage tout d'abord en acte 7, les versets 23 et suivants. Juste pour replacer le contexte ici, on est dans une prédication, un discours qu'un homme qui s'appelle Étienne a donné juste avant sa mort, avant d'être lapidé en martyr, parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans ce discours, pardon, qu'il fait, il raconte toute l'histoire du peuple d'Israël. Et on va prendre juste une petite partie au milieu de ce discours où il est question d'Israël en Égypte, en esclavage, et de Moïse. Donc, acte 7, verset 23. Lorsqu'il eut 40 ans, c'est de Moïse dont il est question, lorsqu'il eut 40 ans révolu, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on maltraitait, prit sa défense et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main, mais eux ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu de certains d'entre eux qui se battaient, et il tâcha de rétablir la paix entre eux. « Vous, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa et dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer de la même manière que hier tu as tué l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse s'enfuit et s'en alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. En le voyant, Moïse fut étonné de cette vision, et comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. « C'est moi, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « Retire tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai bien vu le malheur de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son gémissement, et je suis descendu pour le délivrer. Viens maintenant pour que je t'envoie en Égypte. » Ce Moïse, qu'ils avaient renié en disant « qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. » Voilà, jusqu'ici. Et puis donc une deuxième lecture, cette fois dans l'Ancien Testament, on revient en arrière au deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode. Exode au chapitre 3. On va lire cette fois l'histoire vraiment du buisson ardent de Moïse. Exode 3, enfin on va lire en fait à partir du chapitre 2, le verset 23, donc la fin du chapitre 2 déjà, jusqu'au chapitre 3, verset 15. Longtemps après que Moïse soit parti d'Égypte et fuit l'Égypte pour aller à Madian, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Et voici, quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie? Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Voilà, jusqu'ici cette lecture. Je vous invite, avant le message, à encore un chant. C'est le numéro 20 dans le carnet. Le numéro 20, qui est une prière en fait. On demande à Dieu, par son esprit, d'ouvrir notre cœur et notre intelligence à sa parole. Si vous restez ici, vraiment avoir le livre, la Bible ouverte dans le livre de l'Exode au chapitre 3. On va revenir sur certains des versets. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure lorsque on a lu ce psaume 9 ensemble au début. David dit dans ce psaume 9 la chose suivante. Il dit, ceux qui connaissent ton nom éternel, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Et c'est exactement ce que ce passage en Exode 3 devrait produire en nous, une vraie, une profonde confiance dans ce Dieu qui se révèle à nous, qui révèle son nom. Ceux qui connaissent ton nom éternel se confient en toi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette. Ça vous dit quelque chose? L'intrigue un peu? Est-ce que vous savez où ça se passe? Si vous avez peut-être vu au moins le film, vous avez une idée? Non. Le pays? L'Italie? Non. C'est en Italie. C'est à Vérone que ça se passe, en Italie. Et l'histoire, elle commence avec cette rivalité, ça vous connaissez peut-être, une rivalité qui oppose deux familles, les Montaigu et les Capulet. Une rivalité qui ensanglante justement cette ville de Vérone en Italie. Et Roméo, lui qui est l'héritier des Montaigu, tombe follement amoureux de Juliette. Alors jusque-là, tout va bien. Sauf que, bien sûr, Juliette est une Capulet. Alors, si vous avez bien suivi, il y a les Montaigu et les Capulet. Et c'est ça toute l'intrigue, bien sûr. Parce que, à cause de leur appartenance à ces deux familles rivales, et donc à cause de leurs noms respectifs, eh bien, leur histoire d'amour, elle est condamnée d'avance. Et il y a ce moment, assez au début de l'histoire, que je trouve vraiment frappant, où Juliette demande à Roméo et le supplie de changer de nom pour qu'ils puissent vivre ensemble. Et elle dit ceci, c'est Shakespeare qui nous dit ça, il dit « Qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. » Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il nous dit qu'en fait un nom c'est rien de plus qu'un label qu'on peut changer sans affecter le caractère essentiel de la chose ou de la personne qui le porte. Une rose, elle sentirait toujours aussi bon, même si on l'appelait autrement. Seulement, les auteurs bibliques n'avaient pas lu Shakespeare. Dans la pensée hébraïque, dans la pensée biblique, c'est très différent. Le nom d'une personne est étroitement lié à son identité, à son caractère. Vous pouvez penser à Ève. Ève, ça veut dire vie, parce qu'elle est devenue la mère de tous les vivants. Vous pouvez penser à Noé, un autre personnage bien connu, qui veut dire repos. Parce que, et c'est là c'est le père de Noé qui nous le dit, parce que Noé nous consolera de la peine que nous cause notre dur travail sur le sol que l'Éternel a maudit. Autrement dit, il va nous donner du repos, Noé. Et même Moïse, qui nous intéresse ce matin, Moïse veut dire tirer ou retirer, parce que il a été, vous souvenez-vous, il a été tiré des eaux du Nil à sa naissance, parce que ses parents ont dû l'abandonner à cause de l'édit du roi d'Égypte, et que la fille du Pharaon l'a trouvé. Il a été tiré des eaux. Et plus tard, et c'est là qu'il y a un jeu de mots sur le nom de Moïse, c'est lui qui va tirer, qui va retirer le peuple d'Israël des eaux de la mer Rouge, cette fois. Vous voyez, juste avec ces exemples, on voit bien que dans la Bible, le nom d'une personne, ça résume qui elle est. Et je me faisais la réflexion, je me disais, en fait, même aujourd'hui, c'est pas si étrange que ça. Si vous avez des enfants, si vous avez dû réfléchir à donner un nom à quelqu'un une fois, honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas des noms qui n'étaient pas moches en soi, mais que vous avez simplement directement rayé de la liste parce qu'ils vous rappelaient une personne avec un sale caractère? Vous êtes d'accord? Il n'y a personne qui s'appelle Adolphe depuis 1945. Hein, les noms signifient quelque chose. Et c'est particulièrement vrai dans la Bible. Les noms sont importants parce qu'ils révèlent la nature profonde et le caractère de la personne qui le porte. Et c'est pour ça que la question de Moïse au verset 13, elle est hyper importante. Regardez encore une fois le verset 13. C'est comme on pourrait dire un tournant dans l'histoire du monde. Moïse dit à Dieu, verset 13, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, c'est-à-dire qui il est, comment est son caractère, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il le répète un peu plus loin au verset 14, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et puis encore une fois au verset 15, parce que le mot éternel en français, c'est le même mot, c'est je suis Yahvé en hébreu, littéralement il est, mais c'est le même mot au verset 15. Donc Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Alors il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire concernant le nom de Dieu, qui il est. Même ici dans ce passage, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Moi j'en ai retenu trois. Trois vérités concernant Dieu, qui sont ce que j'ai envie d'appeler des grandes contradictions. On pourrait parler de paradoxe, mais c'est peut-être pas tout à fait le bon mot parce que ça pourrait suggérer qu'il y a de véritables contradictions en Dieu. Et ce n'est pas le cas. Donc, on pourrait parler plutôt d'hyperdoxe, si on veut inventer un mot, un hyperdoxe. C'est-à-dire que dans le sens où il n'y a rien de contradictoire en Dieu, que des vérités qui nous apparaissent à nous contradictoires, mais qui sont en fait parfaitement vraies de Dieu. Au fond, le nom que Dieu nous donne et qui décrit son caractère profond, c'est « Je suis celui qui suis ». Si ça, ce n'est pas une grande contradiction pour notre esprit humain, si ça, ça explose pas toutes nos catégories, vous voyez, voilà. Donc la première chose à laquelle le nom de Dieu nous renvoie ce matin, c'est sa fidèle absence. La fidèle absence de Dieu. Vous aurez compris que j'ai volontairement choisi deux termes qui nous apparaissent à nous contradictoires. Okay? La fidèle absence de Dieu, c'est le premier point. Où en est Moïse dans ce passage? Si vous regardez le début du chapitre. Moi, je crois qu'on peut résumer sa situation en deux chiffres, 400 et 40. 400, tout d'abord, comme les 400 années passées par les Hébreux en Égypte. D'abord, sous un régime libéral. Tant que Joseph, qui était un Hébreu, il avait été premier ministre, tant que Joseph vivait ou que le souvenir de Joseph était encore frais dans la mémoire des pharaons successifs, ils étaient sous ce régime libéral. Et puis on l'avait vu la dernière fois dans les chapitres 1 et 2, il y avait eu un changement de dynastie. Les Hébreux ont vécu ensuite des décennies et des décennies sous un régime oppressif, dans l'esclavage, victime d'un génocide. Mais 400 ans, c'était aussi et surtout la période pendant laquelle Dieu n'avait pas parlé. 400 ans de silence. Alors, oui, dans notre passage, Dieu parle, et nous qui sommes peut-être habitués à lire la Bible, on n'est même pas étonnés. On a l'impression que au temps biblique, Dieu parlait sans arrêt avec son peuple, mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut bien comprendre que lorsque Dieu dit ici Moïse, Moïse, il brise un silence qui durait depuis la dernière fois où il s'était adressé à Jacob, lorsque Jacob était descendu en Égypte. Il brise un silence de 400 ans. Regardez à la fin du chapitre 2 ce que Dieu nous dit s'est produit après ces 400 ans pour qu'il se décide enfin à parler. Pourquoi tout d'un coup? Chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se souvint? Est-ce qu'il avait oublié? Est-ce qu'il souffre d'amnésie peut-être? Est-ce qu'il n'avait pas vu les souffrances de son peuple pendant toutes ces années, depuis plus d'une centaine d'années? Pourquoi, s'il est prêt à agir maintenant, est-ce qu'il n'a pas agi avant? Pourquoi? C'est certainement ce genre de questions qui viennent à l'esprit de Moïse quand il pense à ce premier chiffre, 400, 400 années. Et puis, il y a le deuxième chiffre, 40. 40 comme les 40 années passées par Moïse dans le désert, en exil. Après qu'il ait été tiré des eaux par la fille du Pharaon, Moïse avait passé, on l'avait vu aussi la dernière fois, les 40 premières années de sa vie dans le palais du Pharaon. Bien au chaud, il était au sommet de la gloire, au sommet du pouvoir. Mais un jour, il a voulu prendre les choses en main. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, d'ailleurs on a lu un très bon résumé par la bouche d'Étienne en acte 7, hein, comment Moïse a voulu libérer son peuple en tuant un Égyptien qui frappait un Hébreu, comment il a dû s'enfuir à Madian. Mais si on avait lu les deux premiers chapitres avant d'en venir au chapitre 3 ce matin, l'impression qu'on aurait de Moïse, c'est que c'est un gars violent, un gars colérique, lâche, qui a fui devant le Pharaon, qui est rejeté par les siens, qui se trouve immigrant dans un pays étranger, en train de garder les chèvres, berger. Hein, un métier en plus dont l'auteur de la Genèse, probablement Moïse, nous dit lui-même qu'il était en horreur aux Égyptiens. Voilà le prince d'Égypte derrière un troupeau de chèvres. Il est au plus bas, Moïse, et ça fait 40 ans que ça dure, chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. Horeb qui signifie, puisqu'on est dans les noms ce matin, Horeb qui signifie le lieu de la désolation, de la solitude, de la destruction. Voilà où en est Moïse. Mais on a déjà tous été là, n'est-ce pas, dans ce lieu de la désolation, de la solitude, de la destruction. Je fais bien sûr référence à nos échecs, nos doutes, l'inquiétude, la frustration qui nous gagne parfois, parce qu'il nous arrive à nous aussi de passer par des circonstances particulièrement difficiles ou douloureuses pour lesquelles il ne semble pas toujours qu'il y ait vraiment de solution. Ça peut être une dispute dans la famille, quelque chose qui n'est pas réglé. On est en train de vivre ça en ce moment avec la famille de Anne. Ça peut être une tension au travail, ça peut être une séparation, ça peut être une pression, une attente qui est là, qui nous empêche de dormir le soir. Vous connaissez ça, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire, on réfléchit à ce qu'on aurait dû faire, tout en sachant bien qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. On est inquiet, parfois, n'est-ce pas, abattu. Eh bien, Moïse aussi se sentait comme ça. Inquiet, frustré aussi. Parce qu'il faut bien voir que Moïse croyait, en tout cas il avait cru avoir cette tâche à accomplir, cette mission de libérer son peuple, et après avoir échoué, et échoué encore, c'est comme s'il se retrouvait complètement livré à lui-même. Et cette frustration qu'il devait connaître, on la connaît nous aussi, même, on n'a pas besoin d'être un Moïse, même dans les choses banales du quotidien. Est-ce qu'il y a jamais des choses qui ont lieu, qui vous arrivent, que vous aimeriez pas qu'elles vous arrivent de cette manière-là? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui arrivent et qui transforment totalement la manière dont vous aviez prévu votre journée, hein? Des choses qui vont comme vous n'aimeriez pas qu'elles aillent. Ça arrive tout le temps, hein? Et lorsque les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent, ça nous frustre parce que ça nous rappelle la réalité qu'on est bien petit, bien faible face aux circonstances de la vie et qu'on ne tient finalement pas notre vie entre nos mains. Hein. J'ai regardé hier un film qui parlait de la politique américaine à la Maison Blanche, et celui qui jouait le rôle du président américain, à un moment il a fait cette remarque, je trouvais vraiment assez frappante, il disait que le pouvoir ou la politique, c'est l'illusion du choix. L'illusion du choix, je trouvais ça assez frappant, mais je me disais, mais l'illusion du choix, on n'a même pas besoin de faire de politique pour connaître ça, parce que c'est ce qu'on vit à chaque fois qu'on est confronté à une circonstance qu'on n'a pas choisie dans notre vie, c'est-à-dire à peu près tous les jours. Et à quoi est-ce que cette frustration, elle nous pousse habituellement? Je sais pas vous, mais moi en général, c'est l'irritation, la colère vis-à-vis de la chose ou de la personne qui contrecarre mes plans ou qui m'a mis dans cette situation difficile, la colère même vis-à-vis de Dieu, pour être, parce qu'il est parfois, il nous semble parfois bien silencieux, amnésique, absent, hein, dans ces circonstances difficiles par lesquelles on peut passer. Eh bien, Moïse aussi se sentait comme ça, certainement. Est-ce qu'il y a dans votre vie, je ne peux pas me mettre bien sûr à votre place en ce moment même peut-être, ces temps de désolation, de solitude, de destruction par lesquels on passe, où on aimerait simplement briser le silence, l'apparente absence de Dieu dans nos vies, prendre les choses en main par nous-mêmes, où on croit savoir mieux que Dieu lui-même ce dont on a besoin là maintenant tout de suite, plutôt que de se confier en lui. Je crois que ça nous arrive très souvent, et que si Dieu nous amène dans ce lieu-là, à Horeb, on pourrait dire, c'est pour nous rappeler, pour nous apprendre qu'il agit en son temps et à sa manière. C'est ce qu'il nous rappelle ici. Dieu nous rappelle que son timing n'est pratiquement jamais le même que le nôtre et que ses voies ne sont pas les nôtres. Il nous le rappelle ici au moyen d'une phrase qui revient trois fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une phrase qui est revenue trois fois dans la lecture tout à l'heure. Tout d'abord au chapitre 2, verset 24. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et puis au chapitre 3, verset 6, il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et puis au verset 15, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. S'il y a une phrase qui revient trois fois comme ça, est-ce que Dieu n'est pas en train d'essayer de nous dire quelque chose? Ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que Dieu avait fait des promesses à Abraham et à ses descendants. Et il y en a une qui est particulièrement importante pour nous ce matin, qui se trouve en Genèse 15. Si vous reculez un tout petit peu, vous allez voir en Genèse 15 que Dieu a fait une promesse particulièrement pertinente pour nous. Genèse 15, verset 13. Une promesse que Dieu a faite à Abraham, mais qu'il a répétée sous des formes un petit peu différentes ensuite à Isaac et à Jacob. Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur, l'Égypte, et ils y seront esclaves, et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. 400 ans. C'est prévu depuis le départ. Vous voyez, Dieu n'a pas oublié son peuple dans ces circonstances difficiles, mais Dieu agit simplement en son temps et à sa manière, avec un but bien précis, qui est de produire en nous, ses enfants, une réaction équivalente à celle de Moïse. En Exode 3, si vous revenez avec moi en Exode 3, les versets 9 et suivants, une fois que les 400 ans de silence ont été brisés, une fois que les 40 années d'exil dans le désert se sont terminées, Dieu dit à Moïse, Exode 3, verset 9, maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. Verset 10, maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et quelle est la réaction de Moïse? Verset 11, mais ça va pas du tout, qui moi? Hein? C'est ça qu'il dit au verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites. C'est là, en fait, que Dieu voulait amener Moïse, jusqu'au bout de lui-même, pour qu'il comprenne que par lui-même, il ne peut rien. Mais remarquez ce que Dieu dit comment Dieu répond lorsque Moïse dit « Qui suis-je? » Dieu répond en disant « Tu es… » ta, ta, ta. Non. Vous avez remarqué, lorsque Moïse dit « Qui suis-je? » Dieu répond en disant Je suis. Verset 12. Dieu dit, je suis avec toi. Dieu agit en son temps et à sa manière, oui, mais son silence est toujours porteur de sens, son absence est toujours fidèle. Et je dis ça bien sûr avec... Enfin, je sais que c'est plus facile à dire qu'à vivre, que c'est précisément lorsqu'on est dans... Quand on est à Horeb, pour reprendre le terme, que on veut plus, qu'on peut plus croire que l'absence de Dieu est toujours fidèle. Et pourtant, je suis avec toi dans chaque inquiétude, dans chaque frustration, dans chaque échec, dans chaque doute. Alors comment cette vérité-là concernant Dieu, cette première grande contradiction, que l'absence de Dieu est toujours fidèle, comment est-ce que ça doit s'appliquer à votre vie aujourd'hui? Je ne peux pas me mettre à votre place, mais je suis certain qu'il y a une manière avec laquelle vous pouvez appliquer cette réalité. C'était la première chose. La deuxième grande contradiction qu'on voit ce matin, après la fidèle absence de Dieu, c'est sa sainte présence. Et là encore, vous allez voir, on a un hyperdoxe, okay? Une grande contradiction. Versets 3 et suivants. La sainte présence de Dieu. Moïse qui promène ses chèvres, là, bon, il s'ennuie un peu, on le comprend. Et tout à coup, il voit un buisson en feu. Et ça pique sa curiosité. Hein, parce que, bon, on verra tout à l'heure pourquoi. Mais ce qu'il faut voir pour le moment, c'est qu'il n'est pas effrayé, d'abord. Il est juste curieux. Verset 3. Moïse dit: je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit: Moïse, Moïse! Il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas. Voilà la grande contradiction. Moïse, Moïse, n'approche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que en hébreu, qui est une langue un peu de bédouin, en tout cas l'hébreu biblique, lorsque vous voulez souligner l'intensité ou la grandeur de quelque chose, vous doublez les mots. Donc, si vous avez envie par exemple de parler d'une grande montagne, vous n'allez pas parler d'une grande montagne, vous allez dire littéralement une montagne-montagne. C'est comme ça qu'on souligne l'intensité ou la grandeur de quelque chose. Et lorsque c'est un nom propre qui est doublé, c'est pareil, c'est pour souligner l'intensité de la relation, la grandeur de l'amour, de la tendresse entre deux personnes. Vous pouvez penser à David, le roi David, lorsque son fils Absalom meurt, il dit: Absalom, Absalom, mon fils, Absalom. Ou Jésus, avant sa crucifixion, il vient vers ses disciples et il dit: Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé. Ou lorsqu'il rencontre celui qui va devenir l'apôtre Paul sur la route de Damas, Jésus lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Etc. Etc. On pourrait multiplier les exemples. Mais c'est une marque d'affection et de sa tendresse pour lui, ici, lorsque Dieu appelle Moïse et lui dit: Moïse, Moïse. Mais il ajoute tout de suite: ne t'approche pas. C'est comme s'il était en train de lui dire, en fait: je veux une relation avec toi, entre dans ma présence, stop! Je suis un Dieu saint. Verset 5. C'est ce qu'il nous a dit. Dieu dit: n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est ce que Moïse va apprendre plus tard dans le livre de l'Exode, lorsqu'il demandera à Dieu de le voir face à face. Dieu lui répond: nul ne peut voir Dieu et vivre. Et oui, maintenant on comprend pourquoi Dieu s'est révélé dans un feu, dans une flamme de feu. Et que c'est ça, en fait, précisément, qui a piqué la curiosité de Moïse. Je vous parlais que je vous disais qu'il quelque chose avait piqué sa curiosité. C'est ça. Moïse savait très bien que un feu, il a besoin d'une chose pour brûler. Un feu, il a besoin d'un combustible pour brûler. Il dépend de ça. Et voilà un feu qui dépend de rien, parce que il a beau brûler, mais le buisson ne se consume pas. Et c'est comme ça que Dieu se révèle à nous. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire je ne suis pas celui que tu aimerais que je sois, je ne suis pas celui que tu penses que je suis celui qui suis. Ce qui signifie au moins, peut-être beaucoup plus, mais ça signifie rien de moins que ce que Dieu existe par lui-même, entièrement souverain, complètement indépendant, séparé de tout péché. Dieu est ce qu'il est, ne dépendant de rien ni de personne. Il est saint, saint, saint. On entend souvent autour de nous des gens qui disent je pense que Dieu est, j'aime à penser que Dieu est comme ci, comme ça, j'aime me dire que Dieu ressemble ainsi à ça. Mais ça, c'est pas le Dieu de la Bible qui se révèle dans une flamme de feu. Ça, c'est un Dieu d'argile qu'on peut faire à notre propre image, de manière totalement malléable à notre volonté. Mais le vrai Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui va me contredire. C'est un Dieu qui va me dire ce que j'ai pas forcément envie d'entendre sur ma manière de vivre ma vie amoureuse, ma vie de famille, ma vie professionnelle. C'est un Dieu qui va me faire attendre, qui va me faire patienter lorsque moi j'aimerais voir les choses changer autour de moi. C'est un Dieu qui va m'arrêter lorsque je prends les choses en main par mes propres forces plutôt que de m'attendre à lui. C'est un Dieu qui va m'amener au bout de moi-même, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour le dire autrement, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu duquel on ne s'approche, on n'approche pas sans devoir au préalable enlever les sandales de ses pieds. Et je dis ça en référence bien sûr à ce geste un peu bizarre qui est demandé à Moïse de faire, d'ôter les sandales de ses pieds. C'est difficile de savoir vraiment comment le comprendre. Mais je pense qu'au minimum, il faut peut-être y voir plus, mais au minimum, ce que ça nous montre, c'est que Moïse ne vient pas avec ses prérogatives devant Dieu. C'est Dieu qui établit les termes de la relation et qui demande à Moïse d'abandonner certaines choses pour entrer dans sa présence. C'est Blaise Pascal qui a fait la même expérience, en fait. Vous connaissez sûrement le grand savant et philosophe français. Il a fait une expérience qui ressemble très fortement à celle de Moïse. Probablement d'ailleurs en lisant ce passage-là d'Exode 3. On le sait parce que il a raconté son expérience par écrit sur un bout de papier qu'il a ensuite cousu dans la doublure de son vêtement, et un papier qui a été retrouvé ensuite après sa mort. Et il a écrit la chose suivante. Écoutez bien, il dit: L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, c'est un peu comme un journal, depuis environ 10h30 du soir, jusqu'à environ minuit et demi, feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Vous avez entendu ce qu'il dit? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non pas des philosophes et des savants. C'est curieux, c'est justement ce qu'il était. Est-ce que c'est pas ça, peut-être pour lui, les sandales qu'il avait enlevé? Peux pas savoir, mais son orgueil peut-être de philosophe, de savant, qui croyait qu'il allait pouvoir faire le tour de la question de Dieu, qu'il allait pouvoir prouver l'existence de Dieu, alors que Dieu est l'existence même. Je suis. Voilà, je sais pas. C'est peut-être ça pour lui. Et je peux pas me mettre à votre place. Quelles sont les choses que Dieu vous demande à vous d'enlever, d'abandonner? Est-ce que, peut-être si vous êtes chrétien, est-ce que certaines activités vous retiennent de passer du temps avec Dieu dans la prière, peut-être? Ou est-ce que c'est une attitude de cœur, peut-être à l'image un peu de Pascal, de suffisance, d'orgueil, de celui qui se dit je peux m'en sortir par moi-même, qui vous retient de venir à Dieu et de recevoir sa grâce? Il y a toutes sortes de raisons de ne pas croire en Dieu. Alors, oui, il y a des raisons de croire en Dieu, mais comme je viens de le dire, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui va répondre à mes désirs, c'est un Dieu qui va me contredire. Et donc il y a un Dieu comme ça, il y a toutes sortes de raisons de ne pas croire en lui. Hein? Bon, soyons aussi sceptiques face à notre propre scepticisme. On va arriver au dernier point qui est le plus court, mais remarquez une dernière chose. Moïse a beau enlever les sandales de ses pieds, ça lui permet pas pour autant d'avancer plus. Tout ce que ça lui permet, c'est de se tenir sur ce terrain rendu saint par la présence de Dieu, mais il est toujours à distance, il peut toujours pas regarder Dieu. Et ça, c'est le dilemme, vous voyez, parce que la grande contradiction, celle qu'on a vue au premier point, c'est que l'absence de Dieu est toujours fidèle, mais ce qu'on voit ici, c'est que la présence de Dieu est toujours sainte. Dieu peut pas renier qui il est pour être avec nous. Le Dieu saint, saint, saint ne tolère pas le péché, tout simplement. Un péché dans lequel on est tous, autant que nous sommes, vraiment embourbés. Et ce dilemme-là, eh bien Dieu ne peut le résoudre que grâce à ce qui nous apparaît à nous, là encore, comme une autre grande contradiction. C'est la dernière, c'est sa vulnérable puissance. D'accord? On a vu la fidèle absence de Dieu, sa sainte présence, finalement, la vulnérable puissance de Dieu. Et il faut finalement qu'on parle un instant cette figure que j'ai laissée de côté jusqu'à maintenant, j'en ai pas dit un mot, cette figure qui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson et qui est l'ange de l'Éternel au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Et remarquez quelque chose d'étrange, parce qu'ici au verset 2, c'est l'ange qui est au milieu du buisson, alors qu'au verset 4, c'est Dieu. Verset 4, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela d'où? De l'intérieur du buisson. Et donc il semble que cette voix qui, de l'intérieur du buisson, interpelle Moïse, c'est plus celle de l'ange, mais c'est celle de Dieu. Ou est-ce que c'est celle de l'ange? Ou est-ce que c'est celle des deux? Et vous voyez la ligne de démarcation tout d'un coup entre Dieu et son ange, elle est étrangement floue. Et je crois que ça nous montre que, je pense qu'il faut en déduire de ça et d'autres choses, vous allez voir que l'ange de l'Éternel est une manifestation de Dieu lui-même, identique et pourtant distinct. C'est à la fois l'ange de l'Éternel et l'ange qui est l'Éternel. Et en fait, à chaque fois que Dieu vient vers son peuple dans l'Ancien Testament, il le fait au moyen de son ange. C'est vrai particulièrement dans la suite de l'Exode. Vous connaissez sûrement la suite de l'histoire. Le peuple d'Israël sort d'Égypte sous la conduite de Moïse et l'ange de l'Éternel est comme une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit pour diriger le peuple dans le désert et pour les conduire jusqu'à cette même montagne, le mont Horeb, le mont Sinaï. Et regardez verset 12. En fait, c'est le signe que Dieu donne à Moïse pour l'assurer de sa présence à ses côtés. Au verset 12, Dieu dit: Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Seulement, nous on se trouve, nous on est plus loin, nous on connaît la suite de l'histoire, et on sait que c'est pas comme ça que ça s'est déroulé. Parce qu'au lieu de rendre un culte à Dieu sur cette montagne, le peuple de Dieu a rendu un culte à des faux dieux, à des idoles, un veau d'or qu'ils se sont fabriqués. Et en Exode 33, Moïse, donc après cet épisode du veau d'or, en Exode 33, Moïse qui est devenu vraiment à ce moment-là l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, Moïse se retrouve à intercéder pour le peuple et il supplie Dieu de ne pas les abandonner malgré leurs fautes, de monter avec le peuple d'Israël jusque dans la terre promise. Et voilà ce que Dieu répond. Il dit à Moïse: J'enverrai devant toi mon ange, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple rebelle. Voilà qui est l'ange de l'Éternel. Dieu l'envoie de peur d'exterminer le peuple rebelle. À la fois identique à Dieu et distinct, envoyé de Dieu et Dieu lui-même, sans abandonner les prérogatives de Dieu ou diminuer la sainteté de Dieu en rien, il s'accommode à la présence, à la compagnie de pécheurs tels que nous. Il est ce feu brûlant qui ne consume pas. Ni le buisson, ni Moïse d'ailleurs. Et que vient faire l'ange dans notre passage? On a vu qui il est, mais réfléchissez juste une seconde. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le passage, cet ange? Et là, on revient à ce que je disais au début. Il vient nous révéler le nom de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les religions païennes de l'époque, c'était certainement le cas en Égypte aussi à l'époque de Moïse, connaître le nom de la divinité, son nom secret, ça donnait accès à son pouvoir, à quelque part. Le nom pouvait être utilisé dans toutes sortes de pratiques occultes pour manipuler la divinité, pour domestiquer les dieux. Alors, Dieu ne peut pas être manipulé, mais le simple fait que, à peine quelques chapitres plus loin dans l'Exode, Dieu avertit son peuple par ce commandement, qui est un des 10 commandements, il leur dit: Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Rien que ça nous montre que la tentation était là pour le peuple d'Israël, d'utiliser la relation à laquelle Dieu s'était engagé envers eux, à leur propre fin, pour domestiquer Dieu, quitte à traîner le nom de Dieu dans la boue en se tournant vers des faux dieux. Mais du coup, vous voyez ce qui est en jeu quand Dieu révèle son nom. C'est pas simplement que Dieu nous donne quelques informations supplémentaires un petit peu intéressantes sur lui. Ce qui est en jeu quand Dieu révèle son nom, en révélant son nom, je suis celui qui suis, un nom qui va prendre toujours plus de sens au fur et à mesure que le livre de l'Exode avance et que Dieu se révèle comme un Dieu qui délivre, qui fait grâce, qui est lent à la colère, riche en bonté, en révélant son nom, Dieu se rend volontairement vulnérable. Dieu se met à la merci des êtres humains. Ça, c'est ce que l'ange de l'Éternel vient faire ici. Et fondamentalement, si vous y réfléchissez, ce que l'ange de l'Éternel fait ici, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Lui qui est à la fois identique à Dieu et distinct, envoyé de Dieu et Dieu lui-même, sans abandonner les prérogatives ou diminuer la sainteté de Dieu en rien, il s'accommode à la présence de pécheurs tels que nous. C'est lui, ce feu brûlant qui ne consume pas. Et c'est lui qui, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, donne un sens et finit d'étendre le sens du nom de Dieu. Rappelez-vous, je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà les paroles de Christ dans l'évangile de Jean. Et ce je suis, Christ s'est rendu vulnérable jusqu'à la mort sur la croix qui est le cœur de l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu a été manifestée au grand jour, le jour où il s'est rendu le plus vulnérable. Voilà la vulnérable puissance de Dieu. C'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Que si nous sommes en Christ, unis à lui par la foi, alors oui, vraiment, toutes les absences de Dieu sont fidèles. Il est là, dans toutes nos solitudes, dans toutes nos détresses, dans toutes nos inquiétudes, parce qu'il y a été avant nous. Christ a subi l'absence de Dieu pour que nous n'ayons pas à la subir. Il est « Je suis pour toujours et aujourd'hui aussi ». Et en Christ aussi, vous voyez, la sainteté de Dieu est présente en nous par son esprit, comme une flamme de feu qui ne nous brûle pas, mais qui nous anime à lui rendre un culte par nos vies. Voilà ce que Dieu a accompli par sa vulnérable puissance. Alors, on ne peut pas se confier en nous-mêmes. Je ne peux pas me confier en moi, je ne sais pas comment je vais être demain, je connais mon cœur. On ne peut pas se confier en soi, mais on peut se confier en un Dieu comme ça, non? Ceux qui connaissent le nom de l'Éternel se confient en lui, tout simplement parce qu'il est tout autre. Il est le Dieu des grandes contradictions, et je crois que vous avez compris vraiment ce que je voulais dire par là, non pas des contradictions en lui-même, mais à nos yeux. Parce qu'on connaît tout simplement rien qui ressemble de près ou de loin à sa fidélité éternelle, à sa sainteté brûlante et à son amour merveilleux en Jésus-Christ. Alors, que ce verset puisse être vrai pour nous aujourd'hui, ceux qui connaissent ton nom éternel se confient en toi. Je vous invite à répondre à ce message par un chant. Il y a un champ aussi par lequel on veut placer notre confiance en Dieu. Il faut déjà ouvrir le cantique, c'est le numéro 76 dans le À toi la gloire.